cet écart
dont je parlais, qui semble pas si évident que ça à comprendre, je prenais comme premier exemple ce dont j'ai parlé ce matin à propos de la lutte anti-CPE. Avec le point sur lequel j'ai le plus insisté, surtout vers la fin de l'exposé ce matin, sur comment on part d'une revendication finalement assez classique et assez spécifique de la part des étudiants sur le retrait du CPE, et comment dans le cours même du mouvement, cette revendication est remise en cause par des gens qui s'attaquent à leurs propres conditions. L'écart, c'est ça. Là, avec la lutte anti-CPE, on est face à un exemple qui est, je pense qu'on peut y insister dessus, parce que c'est un exemple qui est quasiment un paradigme, qui est l'exemple, qui serait presque l'exemple type, c'est le cas d'école, hein, comme on dit en français, c'est le cas d'école, c'est le paradigme, c'est un exemple paradigmatique pour arriver à comprendre qu'est-ce que c'est cet écart qui se crée, non pas à partir de deux éléments différents, mais se crée dans le procès même de la lutte. Voilà, donc puisque c'était assez difficile à comprendre cet écart, un assez bon exemple de on revendique tel que l'on est dans cette société pour une revendication, pour obtenir quelque chose de mieux, pour être moins exploité, moins exploitable. Et le mouvement se retourne et aboutit à quoi ? À remettre en cause ce que l'on est. C'est ça l'écart. Je répète, j'insiste, mais c'est ça l'écart. Prenons un autre exemple, la lutte des chômeurs en France, qui a été un mouvement très important durant l'hiver 97-98. Là, on a eu pendant... le mouvement avait commencé bien avant. On a eu là, pendant 2 mois... des occupations d'ANPE, des occupations de services publics, des manifestations régulières et assez massives pour des manifestations de chômeurs en France durant ces 2 mois entre décembre, du début décembre à la fin janvier 97-98. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mouvement? Ce mouvement démarre comme un mouvement de chômeurs, finalement, réclamant, tout à fait légitimement, réclamant du travail, luttant contre les licenciements, réclamant du travail. Et dans le mouvement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forte minorité de ce mouvement qui commence à dire ce n'est pas actuellement, ce n'est pas le travail qui définit le chômage, se définit pas comme une absence, le chômage se définit pas comme une absence de travail, mais c'est dans la situation actuelle du marché du travail, le fait d'être chômeur qui définit la façon dont le travail est employé.
C'est le marché de travail qui définit les chômeurs.
C'est le chômage qui définit la situation actuelle du marché. Comment fonctionne maintenant le... C'est ce renversement, c'est ça également que je peux qualifier d'exemple pour faire comprendre ce qu'est cet écart. Là-dedans, on passe d'une revendication finalement du travail salarié. Et à partir du moment où vous dites c'est le chômage qui définit actuellement l'état du marché du travail, vous remettez en cause le travail salarié. C'est la même lutte. C'est dans le procès de cette lutte que se distinguent ces éléments. Mais ils se distinguent dans l'unité de la lutte. C'est pas deux éléments qui viennent se rencontrer. Quand je parle d'écart, c'est l'écart à l'intérieur d'une unité. Hein. C'est pas deux éléments qui se juxtaposent. Je prendrai également un exemple assez semblable, la lutte des sans-papiers. Également, bon, excusez-moi, c'est des exemples français. Mais tout à l'heure, j'ai donné des exemples étrangers. Dans le mouvement, on voit ce mouvement qui part de la revendication d'une légalisation des travailleurs sans-papiers. Finalement, pour vouloir être le travailleur ordinaire. Or, le travailleur dit ordinaire est en passe de ne plus exister. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est assez semblable à ce qui se passe avec la lutte des chômeurs. C'est le fait d'être flexible, précaire, chômage, employés dans des conditions absolument innommables, qui devient la caractéristique de l'ensemble du marché du travail. Et c'est à nouveau ce renversement dans le procès des luttes que je qualifie d'écart à l'intérieur de l'action en tant que classe. Je prendrai également ce qu'on a appelé le mouvement d'action directe. Dans ce mouvement-là qui débouche sur un alternativisme, on a tout de même le fait de considérer que pour lutter contre le capital, il faut rompre ses relations avec lui, vivre différemment, développer déjà d'autres rapports. C'est-à-dire se remettre en cause comme classe dans le capital, ce qui débouche avec le mouvement d'action directe sur l'alternativisme. On peut en faire la critique comme ça. Pourrait prendre également cette vague de ce qu'on a appelé les luttes suicidaires en France, disons autour du début des années 2000, entre 2000 et 2003, il y a eu en France toute une série de luttes à partir de licenciements d'entreprises qui allaient fermer, où les ouvriers se mettent à dire si vous fermez la boîte, on n'est plus rien et c'est la boîte qui saute. C'est la boîte qui saute matériellement, hein, pas qui disparaît économiquement, c'est la boîte qui saute matériellement. C'est l'affirmation claire et nette que le prolétariat n'est rien séparé du capital et qu'il n'a, dans cette séparation, plus aucune perspective. On ne dit pas, il y a 30 ans, en France, dans ce genre de situation, en France et ailleurs, dans ce genre de situation, ça aurait été, on va chercher à reprendre l'usine. C'est plus du tout ce qui se passe de nos jours. Je pourrais prendre également récemment deux luttes en Italie, les autoferrotrambieri de Milan, puis de l'ensemble de l'Italie. Les autoferrotrambieri, c'est les conducteurs de bus et de tram. Lutte qui peut être intéressante parce qu'à la fois on peut la qualifier de lutte autonome et auto-organisée, mais en même temps qui ne se donne aucune forme propre de son auto-organisation, qui se contente de pousser les syndicats. Et ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a, c'est vrai, une lutte qu'on peut qualifier d'auto-organisée, mais qui n'a plus aucune perspective à partir de son auto-organisation. Coller simplement, pousser, coller au syndicat, et aboutir à ce slogan, qui est quand même un slogan étrange pour une lutte auto-organisée, le syndicat c'est nous. Ou également la grève de Fiat Melfi, dans le sud de Fiat à Melfi, dans le sud de l'Italie, où en 2004, où là, on a une forme où l'auto-organisation à l'écart et contre la CGIL prend forme, mais où, dans le cours de la lutte, les conditions de travail telles que les critiques des ouvriers à Fiat Melfi et toutes les formes de refus du travail de ces ouvriers se retournent contre leur propre auto-organisation, contre cette propre forme d'auto-organisation qui se sont données et qui est incapable, ce collectif auto-organisé, qui est incapable de prendre en compte cette dimension-là de la lutte. On pourrait encore reprendre la multiplication dans des luttes en France de ce qu'on appelle les collectifs. C'est-à-dire qu'il reste ces collectifs. Je pense aux luttes de 2003 en France, lutte contre la réforme des retraites en 2003 en France. Oui, ces collectifs restent à un niveau absolument local, très très local, partout en France, et on a un refus à l'intérieur même de ces collectifs, on a un refus d'une auto-organisation ou de coordination plus générale. C'est que c'est seulement alors que le mouvement est sur le déclin que les grévistes vont réclamer aux syndicats de faire l'unité dans la grève générale. C'est-à-dire ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. Comme si, dans cette lutte-là, moi, je trouve que les collectifs, là, c'est très important en 2003 en France, comme si dans cette lutte-là, l'unité de la classe, c'est quelque chose qu'on rejetait comme extérieur à nous. C'est comme si quelque chose qui ne pouvait exister que dans une représentation syndicale ou simplement au niveau de l'État. Également, il y a ce qu'on appelle c'est devenu dans la presse patronale un terme qui se développe dans la presse patronale, les sauvageons dans les entreprises, et qui développent à l'intérieur des entreprises, c'est pour ça que la presse patronale les appelle les sauvageons, des pratiques de coulage, de petits sabotages, comme ça, qui entrent même très souvent en conflit avec les formes revendicatives classiques, et ils entrent par là en conflit avec souvent leurs collègues de travail. Donc, pour comprendre ce que je veux dire par écart, bon, il faut y inclure, par écart, et dans le deuxième terme de l'écart, cette remise en cause de la classe dans sa contradiction avec le capital, bien sûr, toutes les pratiques qui relèvent de ce qu'on appelle le refus du travail, comme pratique de cette remise en cause de la classe par elle-même dans sa contradiction avec le capital. Puis, bien sûr, bon, il y a l'exemple le plus difficile, mais peut-être le plus intéressant, l'exemple du mouvement social en Argentine. Okay. Peut-être l'exemple le plus important et le plus difficile à traiter. Parce que quand on voit l'auto-organisation en Argentine, qu'est-ce que c'est? C'est les usines autogérées par les ouvriers, c'est les chômeurs qui autogèrent s'auto-organisent pour autogérer les plans extra-barrages, les quelques allocations que leur alloue l'État. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est le chômage aux chômeurs, les usines aux travailleurs, et finalement chacun reste dans sa catégorie, et on gère la situation. Et bon, on voit dans le mouvement qu'une des limites du mouvement, c'est justement cette auto-organisation qui gère les catégories et qui devient la limite même à l'extension du conflit et les contradictions qui se développent entre, par exemple, les usines récupérées et les mouvements de piqueteros. Tant que chacun ne dépasse pas et ne remet pas en cause ce qu'il est, ces contradictions sont inévitables. Ce qui permet de dire que dans ces formes de lutte qu'on peut qualifier, là dans le cas de l'Argentine, d'auto-organiser, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur même de l'auto-organisation, on se heurte immédiatement à ce que l'on est, qui devient ce qui doit être dépassé. Alors, soit, à ce moment-là, soit il y a unification, mais alors il y a abolition de tout ce qui est auto-organisable, soit il y a auto-organisation, mais il n'y a pas d'unité. Et je terminerai comme exemple sur une seule citation qui dit bien ce que je pense en général des limites de l'auto-organisation. Citation à propos, d'un jeune de Kabylie, à propos du mouvement insurrectionnel en Kabylie, en 2002. Ce jeune qui dit, quand on me parle des Arouches, j'ai l'impression qu'on me parle de quelque chose qui m'est étranger. Mais il ne faut surtout pas croire que c'est un vieux truc traditionnel. Il ne faut surtout pas croire, comme souvent c'est présenté dans les journaux, dans les médias, comme un vieux truc traditionnel. Le nom a été repris, mais le contenu des Arouches durant l'insurrection de Kabylie, c'était plus du tout la structure traditionnelle des villages kabyles. Et en fait, pour conclure là-dessus, ce nouveau cycle de lutte avec l'écart que j'ai essayé de définir, c'est pas purement un mouvement d'une structure logique de renversement, mais le résultat de c'est l'action d'une classe ouvrière actuellement recomposée qui a perdu cette stabilité, cette identité ouvrière de l'ancien cycle. C'est la disparition de la stabilité dans l'emploi, c'est la disparition, cette classe ouvrière recomposée autour de cette disparition de la stabilité dans l'emploi, de la disparition des grands bastions ouvriers, de la prolétarisation des employés, de la tertiarisation des ouvriers.
La tertiarisation?
Oui, il faut voir que actuellement, C'est la moitié de ce qui est dans les catégories statistiques officielles considérées comme, faisant, comme étant ouvriers ont des emplois qui ne sont plus des emplois directement de production. C'est ce que j'appelle la tertiarisation des ouvriers. C'est l'action, cette dynamique que j'essaye de comprendre à travers le concept d'écart, c'est l'action de cette classe ouvrière qui vit dans l'externalisation, la sous-traitance et la précarité, les flux tendus. Et également, un élément dont on ne parle rarement, mais qui joue, je pense, un rôle important dans cette recomposition ouvrière, c'est la rupture de la chaîne des générations dans la classe ouvrière. Rupture de la chaîne des générations par le développement du système éducatif et le passage par le système éducatif. Il n'est plus légitime, et avec une certaine autorité, de commencer. On était fils d'ouvrier, finalement on allait à l'apprentissage, on devenait ouvrier. Il y avait cette continuité dans les générations. Maintenant, on devient, pour un jeune, on devient ouvrier, c'est une punition. C'est une punition, il y a rupture dans cette chaîne des générations dans le monde ouvrier. C'est vécu comme une punition. Je voulais terminer sur ce point-là pour enlever l'idée que ce que je qualifie comme dynamique du cycle de lutte, que j'essaie de comprendre avec le concept d'écart, ce soit un pur mouvement de catégories logiques qu'on renverse comme ça. C'est l'action de ce qu'est la classe ouvrière maintenant. Et je terminerai sur une question. Qu'est-ce que les 25% d'ouvriers précaires en France actuellement qui ne savent pas où ils vont travailler demain, qu'est-ce qu'ils auraient à auto-organiser et à gérer?
La réponse?
Justement, la réponse, elle est évidente. Rien. Dossier, la réponse. La réponse me semble évidente.